Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. 1er mai, première tendance. Dans les cortèges en province ce matin, un mélange entre gilets jaunes et manifestants traditionnels. Le rapprochement tant souhaité par les syndicats est-il en train de s'opérer? À Marseille, Jean-Luc Mélenchon appelle à une convergence populaire. Marine Le Pen, elle, est à Metz. À Paris, pas d'unité syndicale. CGT à Montparnasse, CFDT à Odéon. Pas de casse pour l'instant. Il faut dire que la police a multiplié les contrôles. Les derniers chiffres de la préfecture, 3700 contrôles préventifs, 88 arrestations. Cette journée du 1er mai, de quelle couleur sera-t-elle? Tour de France le plus complet possible avec nos reporters et envoyés spéciaux dans un instant. Dans l'actualité également, le sport, l'émotion d'abord et l'hommage d'Alain Prost à Ayrton Senna, 25 ans après sa mort. Les questions également, une athlète obligée de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone. Confirmation du tribunal du sport, c'est l'affaire Caster Semenya. Du nouveau pour plus de 2 milliards de personnes, l'application Facebook change. Faut-il relancer la consigne du verre pour lutter contre le plastique? Nous irons en Alsace. Et puis le conseil cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va voir?
Julianne Moore dans oui. Gloria, super film et un coup de poing dans la figure à tous ceux qui ont dit du mal ces derniers temps de la femme de plus de 50 ans et une BO extraordinaire.
A tout à l'heure pour le coup de poing. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Pas de coup de poing, mais un salut chaleureux. Et quelle tendance météo, Sébastien?
Eh bien, ce sera un après-midi ensoleillé sur les régions de l'Est, mais plus on va aller vers l'Ouest et plus le ciel sera voilé, même menaçant sur le Nord-Ouest. Cela est dû à l'arrivée d'une dégradation. En Bretagne, il faut s'attendre à des averses en cours d'après-midi avec même des risques d'orage en fin de journée. Et puis la perturbation va aussi progressivement s'étendre jusqu'en Basse-Normandie et au Poitou. Côté température, c'est plutôt doux, 14 à 24 degrés du Nord-Ouest au Sud-Est.
D'autres détails tout à l'heure, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Le blanc du muguet, le jaune des gilets, le rouge des revendications, le bleu de la police ou le noir des casseurs. Quelle couleur va dominer ce 1er mai 2019? Quel mélange de couleurs? La convergence des luttes tant souhaitée par les syndicats entre gilets jaunes et autres manifestants va-t-elle s'opérer? Question et déjà des éléments de réponse alors que beaucoup de manifestations avaient lieu ce matin. Quelques milliers de personnes, dont des gilets jaunes, au Havre, à Caen, à Annecy par exemple. Avant d'aller à Paris, quel climat dans l'une des villes clés de la crise des gilets jaunes, Toulouse. Reportage Stéphane Garcia.
En tête du cortège de plusieurs milliers de manifestants, depuis le début, on retrouve les gilets jaunes comme Christophe, devant les syndicats certes, mais ensemble.
On a tous la même chose. On se bat, nous, pour nos enfants, nos grands-parents, nos parents, l'honneur des travailleurs et le pouvoir d'achat. Et tous ensemble, c'est comme ça qu'on obtiendra quelque chose et qu'on avancera. On a besoin de tout le monde.
Des syndicats qui voient également d'un bon œil cette convergence, comme Cédric Cobert, secrétaire CGT de Haute-Garonne.
L'unité est importante parce que tous ceux qui sont ici et plus largement ont bien conscience que pour changer les choses, nous devons être unis, nous devons être ensemble.
D'autant qu'il y a urgence, explique Richard de Sud Solidaire.
L'urgence, elle est là. L'urgence, elle est sociale. L'urgence, elle est qu'au 1er juillet, il y a des gens qui vont commencer à partir en vacances et qui ne vont pas pouvoir payer une glace à leurs gamins sur les bords de plage parce qu'ils ne peuvent plus.
Des gilets jaunes, rouges, verts aussi, en faveur de l'écologie, comme Laurent de l'association Alternative.
Cette convergence, elle ne coule pas de source, mais nous, on travaille à ce que, dans les consciences, elle se mette en œuvre, c'est-à-dire aussi bien du côté de certains écologistes qui voient les questions sociales parfois d'un peu loin, que du côté des gens qui sont la tête dans le guidon et qui ont du mal à voir au-delà de la fin de mois une catastrophe pour laquelle ce sont les plus fragiles socialement qui seront les premiers touchés.
Et si les policiers sont hués lorsque le cortège passe devant, pour l'instant, tout se déroule dans le calme sur les grands boulevards toulousains.
Merci Stéphane Garcia pour ces échos de Toulouse. Nous allons à Marseille et Metz tout à l'heure. D'abord Paris, plus de casques et de boucliers que de brins de muguet dans la capitale ce matin. 7400 policiers et gendarmes déployés pour prévenir l'action redoutée de Black Blocs. La manifestation va de Montparnasse à Place d'Italie. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous êtes sur le parcours Rémi à Port-Royal avec Alexandra Bergel. Alors vous allez nous dire quelle est l'ambiance dans un instant. D'abord, pour mesurer l'ambiance, il faut aussi parler des contrôles policiers très nombreux ce matin dans les gares et aux portes de Paris. Rémi, vous êtes passé ce matin porte d'Orléans.
Oui, porte d'Orléans où plusieurs camions de police étaient stationnés ce matin. Les voitures sont quasi systématiquement arrêtées, surtout celles immatriculées en région ou en banlieue parisienne.
Je les orientera vers le commissariat.
Et les forces de l'ordre saisissent de nombreux objets dans les coffres, les boîtes à gants passées au peigne fin. Ici, un marteau dans la voiture d'un jeune couple venu de l'Essonne qui repart libre. Là, des casques de vélo avec des lunettes de ski, sans doute pour se protéger des gaz lacrymogènes. Jonathan, Mathias et leurs trois amis, tous gilets jaunes, ont pu garder leur protection.
Bah, ils ont fouillé un petit peu tout. Ils n'ont rien pris, je crois. Ils voulaient les casques.
Tout ce qui est masque de snow, casque pour se protéger des gaz lacrymogènes que tout le monde se prend dans la gueule, là, il y a souvent des interdictions et des confiscations de ce genre de matériel qui sont juste de la protection. Hein. On a négocié, c'est passé. Mais en fait, ces contrôles, c'est la seule réponse politique qu'ils nous donnent. Vu qu'il n'y a pas de réponse politique, ils font de la répression.
Et si ces gilets jaunes ont pu garder ces protections, c'est parce qu'il y a parmi eux des street medics, ces manifestants qui secourent les blessés dans les cortèges. Pour les autres, moins de chance. Les saisies sont importantes. Les policiers ont même procédé à quelques interpellations à la sortie du périphérique.
Merci Rémi Brocato. On vous retrouve à Port-Royal dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on aille à Montparnasse, au début du cortège. Est-ce qu'Adrien Toffolet est avec nous ?
Bonjour Bruno.
Bonjour Adrien. Déjà, le climat se tend à Montparnasse au début du cortège parisien.
Effectivement, on est un petit peu moins d'une heure du départ et déjà nous venons à l'instant, il y a quelques minutes, d'assister à des premiers échauffourées, des explosions suivies d'une charge de CRS et de gendarmes mobiles, une charge sur la tête du cortège où se trouve au moins une centaine de Black Blocs. Il est très très difficile de les compter, ils sont mélangés à de nombreux gilets jaunes, ce sont un petit peu les deux couleurs qu'il y a en tête du cortège, suivies ensuite par les syndicats qui essayent de rassembler au maximum leurs sympathisants. Nous avons du rouge, la CGT, nous avons du bleu, FSU, nous avons un petit peu toutes les couleurs qui sont réunies, mais principalement la couleur qu'on voit le plus, c'est celle du jaune. C'est le jaune des gilets jaunes qui sont vraiment dispersés sur l'ensemble du cortège. Là, la charge est terminée, la charge des gendarmes mobiles est terminée. Là, on est sur un instant de calme, mais déjà, donc, en début avant même que la manifestation ne commence, ces premiers échauffourées.
Merci beaucoup Adrien Toffolet pour ces précisions. Je rappelle les chiffres clés. 3700 contrôles préventifs ce matin à Paris, 88 arrestations. Rémi Brancato, on vous retrouve. Alors vous êtes quelques centaines de mètres plus loin du côté de Port-Royal. Quelle est l'ambiance à Port-Royal ? On se souvient qu'on a demandé aux commerçants de fermer. Comment ça se passe ?
Oui, eh bien ici l'ambiance est encore très calme. Les restaurants, commerces sont barricadés avec parfois des planches à bois devant les vitrines, des camions de CRS ou de gendarmes mobiles à tous les coins de rue ou presque, des contrôles aussi pour les piétons. On l'a vu tout à l'heure à la sortie du RER. Elisabeth, une habitante du quartier, est un peu surprise ce matin.
J'avais des amis qui devaient venir déjeuner et c'est fini. Il n'y a pas de métro, il n'y a rien, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de bruit.
Alors elle a quand même pu acheter un poulet pour ce midi chez Jonathan Pratt qui était encore ouvert tout à l'heure dans une rue en marge du parcours.
J'ai pas eu d'interdiction d'ouvrir ce matin, juste un conseil de la Fédération de la Boucherie qui me demandait de fermer à 13h et de rentrer tout ce qui est rôtisserie et objets pouvant devenir dangereux. Effectivement la boutique, s'ils veulent la casser, qu'on soit ouvert ou fermé, ils peuvent la casser, vu que j'ai pas de rideau de fer, mais je préfère mettre Florian en sécurité et fermer.
Florian, c'est son salarié qui ne travaillera donc pas cet après-midi. Il y a encore quelques brasseries ouvertes ici à proximité des camions de CRS à Port-Royal. On boit un café à la terrasse de Christelle par exemple, qui prévoit de fermer de 14h à 18h.
On va rester là, on va un peu protéger les baies vitrées, au cas où. Si ça casse, on se met à l'abri.
Et à quelques mètres de nous, au carrefour de Port-Royal, un barrage de police s'est formé il y a quelques minutes. Des confrères signalent effectivement des premiers usages de gaz lacrymogène à quelques centaines de mètres d'ici métro Vavin.
Adrien Toffolet nous racontait cela également tout à l'heure. 190 motos circulent aux alentours des manifestations et des drones doivent sécuriser le défilé. Ça c'est pour Paris. Nous allons à Marseille à présent. Particularité de Marseille, c'est là que défilent les insoumis Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry. Et pas loin, il y a également le numéro 1 de Force Ouvrière. Reportage Olivier Marseille.
Marseille, c'est toujours un peu particulier. FO, le premier syndicat sur la ville, ne manifestait pas ce matin, mais tenait meeting à la Bourse du Travail, en présence du secrétaire général de la Confédération, Yves Verrier.
Chaque année, ça n'est pas une grande journée de manifestation, forcément, mais c'est effectivement une journée où les adhérents se regroupent, discutent, débattent, où on resserre les rangs et les adhérents repartent regonflés sur les revendications du moment, les salaires, la retraite, le service public, la fonction publique.
Dans la rue donc, la CGT, Sud, la FSU, mais aussi des partis politiques comme le PC et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry avaient choisi Marseille pour défiler.
Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel, des Gilets jaunes. C'est ça qui est nouveau. Jusqu'à quel point, dans quelle proportion, comment tout ça se mélange bien ou mal, c'est ça la grande question politique. Parce que nous sommes dans une situation qui est du jamais vu. Jamais un événement comme celui-là n'a eu lieu en France, d'un mouvement social qui dure 24 semaines.
Beaucoup de gilets jaunes également dans le cortège et une démonstration de force au final réussie. Ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde dans les défilés à Marseille un 1er mai. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et non, on n'en est pas encore à la convergence entre syndicats réformistes d'un côté et plus contestataires de l'autre. À Paris, place de l'Odéon ce matin, il y avait la CFTC, l'UNSA, la FAGE, les réformistes et la CFDT. Son numéro 1, Laurent Berger, veut parler d'Europe avant les élections.
Vous savez, le syndicalisme français, il est pluriel. Et on a des organisations syndicales qui revendiquent et qui affirment qu'il faut pratiquer un syndicalisme qui soit un syndicalisme de résultats, de propositions concrètes. C'est ce que nous avons fait avec 19 organisations dans ce pacte social et écologique. Maintenant, nous voulons pousser l'avantage. Pousser l'avantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a senti une inflexion dans le discours et maintenant, on va dans la brèche qui a été annoncée. On a entendu le Premier ministre qui dit qu'il veut faire avec les organisations syndicales bachiches. Il en a trois ici qui sont prêtes à s'engager pour les chèques transport, pour la rénovation thermique des logements, pour de la justice sociale, pour la limitation des rémunérations des dirigeants. 66 propositions que nous avons formulées avec tout un tas d'ONG et d'associations. Donc au 1er mai, on fait la fête de l'Europe, on fait la fête du travail. Et on porte nos revendications. Je parle beaucoup d'Europe parce que l'Europe est, je crois, l'espace dans lequel le monde du travail peut trouver aujourd'hui des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Même au niveau de l'Europe, la question du pouvoir d'achat est posée. La Confédération européenne des syndicats, elle revendique un salaire minimum en Europe, dans tous les pays en Europe, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Elle revendique une assurance chômage européenne, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en Europe. Elle revendique la fin du dumping social, ce qui est malheureusement aujourd'hui le cas en Europe. Donc, ce qu'on dit, c'est que la fête des travailleurs, la fête du travail, elle a une dimension internationale. Elle a une dimension européenne et elle a une dimension française. Et aujourd'hui, nous portons nos revendications.
Voilà pour les propos de Laurent Berger au micro d'Adrien Toffolet. Les syndicats plus contestataires, dont la CGT, sont dans le cortège qui va partir de Montparnasse. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, était ce matin l'invité de France Inter. Vous pouvez réécouter l'intégralité de l'entretien sur franceinter.fr. Ce 1er mai 2019 passe également par Metz. C'est là que Marine Le Pen a choisi de passer la journée, loin de Paris. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Maxence, quels échos de cette journée pour l'instant ?
Eh bien, Marine Le Pen n'a pas voulu froisser les militants historiques, heureux de l'accueillir devant la statue de la Pucelle, ici à Montigny-lès-Metz, pour un hommage à minima. 10 minutes, montre en main, un temps de silence, quelques applaudissements, une gerbe de fleurs, puis entre deux selfies sous le soleil, un tacle contre le supposé laxisme du gouvernement.
Le 1er mai 2018 avait été une véritable dévastation de Paris, sans que depuis aucune décision de dissolution de ces milices d'extrême gauche n'ait été décidée par le gouvernement. Donc il semble qu'elles aient pour le gouvernement une utilité. Je n'en vois qu'une, moi, c'est effectivement de discréditer un mouvement social, un mouvement populaire, qui est le mouvement des Gilets jaunes.
Marine Le Pen réagit à cette actualité parisienne, car elle se rend bien compte que son rassemblement pourrait passer inaperçu. Plus d'un millier de militants sont attablés en ce moment au parc des expositions. Ils viennent de tout le nord-est de la France. C'est le grand rout de cette campagne. Marine Le Pen va livrer à 15h sa vision de l'Europe. Un discours qui, d'habitude, le 1er mai, est diffusé en direct sur les chaînes d'information en continu, puis largement relayé. Mais cet après-midi, les gilets jaunes et les casseurs risquent de lui voler la vedette.
Maxence Lambrec, vous étiez pour France Inter en direct de Metz avec Jérémy Thuil. Enjeu de cette journée pour le gouvernement, éviter la casse comme l'année dernière. Et donc, je vous rappelle l'information que nous donnait Adrien Toffolet il y a quelques minutes, déjà des premières heures entre des casseurs et les forces de l'ordre du côté de Montparnasse, avec des jets de projectiles, une centaine de Black Blocs présents à Paris, du côté du métro Vavin.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Au Venezuela, pour l'instant, en tout cas, c'est raté pour Juan Guaido. Le ralliement de quelques militaires n'a pas fait basculer toute l'armée dans le camp du président autoproclamé du Venezuela. Il appelle à poursuivre les manifestations contre Nicolas Maduro, le président en place aujourd'hui. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Faisons le point avec vous, Bertrand, sur cette crise importante. Pour lui, pour Guaido, la manche d'hier est une manche perdue.
Oui, Nicolas Maduro a beau jeu d'ironiser sur ce qu'il nomme une escarmouche putschiste pour qualifier la défection d'une poignée de soldats qui ont rallié le camp de son adversaire. De fait, le haut commandement militaire n'a pas basculé pour l'instant et le soulèvement auquel appelle Juan Guaido ne s'est pas produit ou pas encore. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.
L'armée semble aujourd'hui solidement loyale au pouvoir constitutionnel, même si effectivement il y a maintenant 100, 200, 300 militaires vénézuéliens qui ont fait défection, mais sur une armée qui fait plus de 230 000 hommes, la masse critique n'y est pas du tout.
Ce qui permet à Nicolas Maduro de reprendre la main, au moins en apparence, en promettant des poursuites pénales contre ses adversaires. Le président vénézuélien dit avoir désigné 3 procureurs chargés d'interroger les personnes impliquées dans des délits contre la Constitution et l'État de droit. Il dément aussi avoir voulu fuir à Cuba, contrairement à ce qui a été indiqué par Washington, et assure que toutes les bases militaires lui sont fidèles.
Cela dit, les gens sont dans les roues, partout les territoires, à Caracas.
Cela dit, Bertrand, on entendra ce son un peu plus tard. Juan Guaido, encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Hein.
Oui, en ce 1er mai, jour de manifestation, le président autoproclamé espère une mobilisation massive contre le pouvoir en place. Et s'il reconnaît ne pas avoir réussi à convertir à sa cause le haut commandement militaire, Juan Guaido dit avoir décelé des failles dans le soutien des hauts gradés à Nicolas Maduro. Il exhorte les forces armées à se joindre au soulèvement. La détermination des opposants ne faiblit pas, explique la porte-parole en France de Juan Guaido, Isadora Zubillaga, interrogée par Valérie Crova.
Les gens sont dans les roues, partout les territoires, à Caracas, à Maracaibo, à San Cristobal. Nous sommes tous préparés et on a besoin de tous pour reconstruire le Venezuela. Tout ce qu'on fait à ces moments depuis 3 mois, c'est historique.
Dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, Juan Guaido affirme que le mouvement continue, un soulèvement officiellement soutenu par les États-Unis, mais aussi par des pays de la région comme la Colombie ou le Brésil.
Merci Bertrand Galichet. L'actualité internationale, c'est encore Julian Assange, condamné à 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire. On avait longuement parlé il y a quelques jours de son arrestation. Comment essayer de tourner la page de ces millions de données personnelles laissées à disposition d'une officine politique? Le scandale Cambridge Analytica. Comment essayer de convaincre que Facebook n'est pas le grand violeur de notre intimité? Le réseau social s'offre une jeunesse aujourd'hui, design un peu changé, nouvelles fonctionnalités et l'insistance mise sur les échanges avec des proches. France Inter à Los Angeles, Loïc Piala.
En 2010, Mark Zuckerberg parlait du respect de la vie privée comme d'une norme sociale moins essentielle que dans le passé. Le patron de Facebook a visiblement changé d'avis. Hier, il s'en est fait le fervent défenseur.
Je crois que le futur sera privé. C'est un nouveau chapitre pour nos services. Dans nos vies numériques, comme dans la vraie vie, nous avons besoin d'un espace public et d'un espace privé. Notre vie privée nous donne la liberté d'être nous-mêmes.
De multiples scandales de données personnelles piratées l'ont sans doute aidé à réviser son jugement. Il a prévenu que l'application Messenger serait bientôt cryptée par défaut, comme l'est déjà WhatsApp, l'autre messagerie du groupe. Impossible ou presque alors pour un pirate, un gouvernement ou même Facebook d'espionner nos conversations.
Je sais bien que beaucoup de gens ne pensent pas que l'on soit sérieux à ce sujet. Je me rends bien compte que Facebook n'a pas la meilleure réputation qui soit en ce qui concerne le respect de la vie privée.
Mais Zuckerberg n'a fait aucune allusion à l'amende de 5 milliards de dollars que le gouvernement américain pourrait infliger à la plateforme dans le cadre d'une enquête sur l'affaire Cambridge Analytica. Il n'a pas non plus évoqué l'attentat de Christchurch diffusé en direct sur Facebook Live par le terroriste. Le milliardaire s'est contenté de rappeler que les outils de Facebook devaient être utilisés pour faire le bien. À Los Angeles, Loïc Pierre pour France Inter.
Est-ce une révolution, comme le disent certains dans la majorité, ou de l'enfumage, comme le pense l'opposition? À quoi va servir la convention citoyenne promise par Emmanuel Macron jeudi dernier? Et surtout, comment va-t-elle travailler? Alors ce qu'on sait déjà, 150 citoyens tirés au sort, réunis à partir du mois de juin. Le tirage au sort, ce sera en mai. Tout cela pour élaborer des propositions très concrètes en matière de transport, de logement, pour lutter contre le changement climatique. Sandy Dauphin, sur cette fameuse convention, vous avez d'autres détails depuis hier?
Ces 150 citoyens devraient se réunir un week-end toutes les 3 semaines pendant 6 mois. Une cinquantaine d'experts et de parlementaires pourraient compléter cette assemblée. La composition finale n'est pas encore arbitrée. Le ministre de la Transition écologique promet que les propositions de cette convention citoyenne seront adoptées par voie parlementaire ou encore mieux, selon François de Rugy, par référendum.
Moi, c'est ma préférence, le référendum, parce que je crois que cela permettra vraiment de susciter l'adhésion de l'ensemble de la société française, d'avoir vraiment une mobilisation, un entraînement de l'ensemble des citoyens.
Les citoyens vont entendre des experts, auditionner des ONG, des personnalités. Ils devront évaluer les solutions existantes pour lutter contre le réchauffement climatique, en proposer de nouvelles, y compris celles qui fâchent, comme la taxe carbone.
Tous les sujets qui ont trait au climat seront sur la table de cette assemblée citoyenne. Les citoyens, après en avoir débattu entre eux, après avoir entendu des experts, ils pourront faire des propositions. Est-ce que ça les amènera à dire le levier de la fiscalité et notamment de la taxe carbone, est efficace pour réduire les gaz à effet de serre. Nous verrons bien.
Une taxe carbone remodelée, proposée par des citoyens et qui suscite une adhésion par référendum, ne serait-ce pas le scénario rêvé pour le ministre de la Transition écologique?
Et en matière d'écologie, c'est peut-être dans les vieilles bouteilles qu'on réalise les meilleures recettes écolo. Voilà qui rappelle la France de nos parents, voire grands-parents. La consigne du verre. Vous rapportez vos bouteilles ou pots de confiture chez le commerçant et il vous donne en échange quelques centimes ou un petit bon d'achat. Et bien pour lutter contre la pollution au plastique notamment, faut-il relancer la consigne? En Alsace, Olivier Vogel, la pratique n'a pas disparu. Un brasseur local et une marque d'eau de source la relance même. Ils se regroupent dans un réseau qui s'appelle Alsace Consigne.
En Alsace, la consigne est historique. Aux eaux de source Carola, par exemple, Valérie Sigler, sa directrice générale.
Depuis 130 ans, on fait du verre consigné chez Carola. C'est une gamme qui a perdu un peu en attractivité parce que le plastique est arrivé dans les années 70. Et donc aujourd'hui, effectivement, il reprend de l'intérêt puisqu'on a tous affaire à des enjeux environnementaux très importants.
Car la consigne est bien plus écolo que le verre recyclé. Simon Baumer est le président de Zéro Déchet Strasbourg. C'est aussi le coordonnateur du réseau Alsace Consigne.
Le verre perdu, il faut le refondre, il faut le chauffer à plus de 1000 degrés. C'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Le lavage utilise beaucoup moins d'énergie. C'est quand même 79% de gaz à effet de serre en moins.
Pour le consommateur, le contenu du verre consigné est 20% moins cher que dans du verre dit perdu. Pour les industriels, l'avantage n'est pas économique, mais écologique. Édouard Hague, le directeur général de la brasserie Météor, qui propose depuis plus d'un siècle des bouteilles consignées.
L'impact financier, il est neutre. On a les mêmes marges sur les bouteilles consignées ou sur les bouteilles perdues. Mais c'est surtout un intérêt écologique. Nous sommes une vieille entreprise. Et donc forcément, pour nous, quand on parle de pérennité, ça passe aussi par l'environnement. C'est dans notre ADN.
L'idée de ce réseau Alsace Consigne, c'est de faire boule de neige dans la région et ailleurs en France, en incitant notamment les grandes surfaces à s'équiper en machines à récupérer les bouteilles.
Et avant le sport et le cinéma, un mot pour vous inciter à aller sur franceinter.fr. L'actualité du jour en images, les manifestations et la situation au Venezuela. Le sport donc, et alors que la différence entre les genres féminin et masculin est de plus en plus questionnée dans les milieux intellectuels, mais plus seulement, le tribunal arbitral du sport se penchait sur le cas de la championne d'athlétisme sud-africaine Caster Semenya. Elle produit naturellement beaucoup de testostérone, on l'a longtemps soupçonné d'être dopée. Alors au nom de l'équité sportive, doit-elle prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone? Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Bruno.
Eh bien le tribunal arbitral du sport dit oui.
Oui, c'est la double championne olympique du 800 mètres, mais aussi d'autres athlètes féminines hyper-androgènes veulent continuer à courir dans des compétitions internationales. Elles devront désormais prendre des médicaments pour faire chuter ce taux de testostérone naturellement élevé. Dans sa sentence, le TAS explique juger le nouveau règlement de la Fédération internationale discriminatoire. Il émet même de sérieuses réserves sur son application pratique, mais pour lui, c'est un moyen nécessaire et raisonnable pour garantir l'équité de certaines épreuves d'athlétisme. Une décision qui va à l'encontre de l'important soutien public reçu ces dernières semaines par la double championne olympique et pas seulement dans son pays. Incursion très rare dans le domaine sportif. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait pris position en faveur de Caster Semenya. Pourquoi ne pas interdire le basket aux athlètes trop grands? S'interrogent aussi certains scientifiques. Caster Semenya, elle publiait ses simples mots sur les réseaux sociaux. Parfois, la meilleure réaction est de ne pas réagir.
Et ce soir, un champion qui est tout petit de taille mais très grand par le talent et sur le terrain, Lionel Messi et Barcelone, deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, Barça-Liverpool. Hier, l'Ajax a gagné 1-0 sur le terrain de Tottenham. Vous l'aurez compris à l'écoute de ce journal, du début de ce journal, nous sommes le 1er mai 2019. Cela veut dire qu'un quart de siècle, une génération est passée depuis le 1er mai 94. Dans beaucoup de chambres d'ados, il y avait à l'époque le poster de cette gueule d'ange, cheveux bruns, casque d'or, parti à jamais dans le virage de Tamburello, Grand Prix d'Imola. Ce dimanche-là, c'est Henri Charpentier qui présentait les infos.
France Inter.
C'est donc en fin d'après-midi, dans un communiqué laconique, que la mort du triple champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, a plongé dans la stupeur le monde sportif. La nouvelle officielle.
Ayrton Senna, 25 ans après sa mort. Celui qui en parle le mieux, c'est évidemment Alain Prost, rival, puis ami et confident de Senna. Prost, ici interrogé par Fabrice Abgral, il avait pris sa retraite 7 mois avant l'accident de Senna et le jour de la mort du Brésilien, il commentait la course à la télévision.
Ça a été terrible parce que, vous savez, il n'y a rien de mieux qu'un adversaire. Puis, une fois que vous
vous avez arrêté, l'adversité, ça devient beau, parce qu'on avait en même temps construit une relation humaine après. On s'aperçoit que après, pourquoi il avait été comme ça, pourquoi c'était aussi violent. En fin de compte, j'étais son modèle. Plusieurs fois, il m'a appelé dans l'hiver en me disant « Mais tu sais, reviens, je peux pas me motiver contre les autres. » J'ai toujours, quand j'étais gamin, quand j'étais dans le karting, je te voyais courir déjà, etc. C'était mon modèle et aussi mon challenge. Voilà, on comprend mieux les choses après. Aujourd'hui, 25 ans après, que vous soyez dans n'importe quel pays du monde, quand vous parlez de Senna, vous pensez à Prost. Quand vous parlez de Prost, vous pensez à Senna. C'en est que plus beau, parce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de ce que l'on a fait à l'époque.
Quel souvenir vous avez très précis d'Ayrton Senna? Une image?
La dernière image que j'ai de lui, ma discussion dans le garage de l'écurie Williams, juste avant la course, que tous les deux en tête à tête. J'ai vu de l'amitié dans ses yeux, donc c'est l'image que je garderai à jamais.
Voilà, et cette très très belle interview, vous pouvez la réécouter en longueur, parce que Alain Prost et Fabrice Abgral ont longuement parlé sur franceinter.fr, notre séance cinéma du mercredi.
I love you, you understand?
Get away from the car!
Three, Gloria!
One, two, three!
Gloria, actrice principale de ce film, Julianne Moore, critique cinéma sous le charme, Corinne Pellissier. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Gloria, c'est votre conseil cette semaine. Magnifique portrait de femme, me disiez-vous, signé Sébastien Lelio. La femme de plus de 50 ans a de l'avenir et un charme fou.
Exactement, pas de jugement ici, un portrait absolument incroyable. Julianne Moore, solaire, qui apporte à ce personnage de Gloria une fougue, une envie de liberté totalement magnétique. Une femme qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, loin des diktats de la société, de la mode, du monde du travail, du regard des hommes. Elle a 58 ans, elle est magnifique, elle assume totalement ce qu'elle est aujourd'hui. Une femme divorcée, avec des enfants qui ont grandi, un peu absents, un boulot un peu ennuyeux, pas vraiment de perspective, pas de mec, et pourtant elle vit, elle danse, elle sort en club, elle drague. Elle continue de se bagarrer contre le temps qui passe et qui déclasse bien souvent cette femme de plus de 50 ans à qui on veut toutes les misères du monde.
Et le sujet fait écho au parcours de Julianne Moore à Hollywood tellement qu'elle a décidé de produire le film.
Voilà, Julianne Moore fait partie, on se souvient, des toutes premières comédiennes bien avant le mouvement Time's Up à avoir pointé du doigt la différence salariale ou les rôles quasi inexistants pour les femmes de plus de 40 ans. Cette violence et cette peur parfois même de vieillir dans une société obsédée par la jeunesse, eh bien voilà ce qui l'a poussée à interpréter ce personnage et à produire le film. C'est un portrait de femme comme on en voit peu au cinéma à cause de son âge. Et Sébastien Lelio a beau être un homme, il réussit très bien à montrer la réalité d'une femme de 50 ans. C'est important qu'une voix s'élève pour leur dire qu'il peut encore se passer des choses pour elle. Ce n'est pas fini. Ça continue. Dites-vous simplement que vous avez plus d'expérience, mais que le monde a encore besoin de vous.
Alors, le titre exact du film, c'est Gloria Belle. Avant, il y avait eu Gloria, du même Sébastien Lelio, tourné non pas à Los Angeles, mais au Chili, avec une autre comédienne. Le même film, quasiment, et pourtant pas la même résonance.
Voilà, 5 ans seulement, séparent ces deux films. Ils se ressemblent énormément, c'est quasiment du plan par plan au niveau de la structure, et pourtant ils sont totalement différents. Alors, il y a bien sûr la personnalité de Julianne Moore, sa notoriété, son aura, qui apporte une autre envergure au film. Mais ce que l'on retient surtout, c'est sa justesse par rapport à l'époque, par rapport à ce monde qui est beaucoup plus réceptif aujourd'hui à ce portrait de femme qui revendique sa part de pouvoir, une vision très sensible, pleine d'humour, et avec un nom pareil, évidemment, une BO forcément canon.
Voilà, Gloria Belle au cinéma cette semaine, tout comme Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs de Guillaume Canet.
La météo avec Air France, et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Sur la moitié est jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, à Paris, au Massif central et à Midi-Pyrénées, le soleil est prédominant cet après-midi. Le ciel tend quand même à se voiler par l'ouest et des averses se développent sur les hauteurs des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la Corse. En revanche, du Pas-de-Calais à la Normandie et l'est parisien jusqu'en Nouvelle-Aquitaine, le voile nuageux devient de plus en plus dense. Ce voile nuageux de plus en plus épais, c'est la marge avant d'une perturbation qui arrive sur l'ouest et qui va donner des averses cet après-midi sur la Bretagne. Ces averses sont surtout actives en fin de journée, avec même des orages sur l'est de la Bretagne. Progressivement, cette perturbation va gagner du terrain et il faut s'attendre à des averses jusqu'au Poitou, au Pays de la Loire et à la Basse Normandie. Les températures maximales sont généralement en hausse, hormis sous les nuages de la perturbation. Prévoyez 14 à 24 degrés du nord-ouest au sud-est.